Et les deux sont importantes, mais dans une certaine, harmonie. Et donc l'auteur de Théronomiste, c'est qui avait probablement écrit le Deutéronome comme une sorte de prologue à l'histoire des rois, ça va se continuer, ainsi que les adieux, nous aurons un cours sur les livres historiques l'an prochain, nous reprendrons les choses, qui un projet d'histoire de la royauté jusqu'au fiasco de l'exil, pour montrer qu'il y a une certaine histoire qui va vers la ruine, mais qu'il y a une histoire intérieure qui prolonge au-delà de ce qu'on pourrait appeler un échec, dans une véritable victoire de Dieu. L'exil étant vraiment le creuset de la foi, et c'est à partir de cet exil, dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus, le grand prêtre, a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. C'est dans la souffrance que l'on découvre le sens de l'existence, et bien ce qui s'est passé en Israël, et c'est à partir de cet exil, de cette souffrance, qu'Israël a pu relire son histoire. Et le projet historien affleure dans l'apparition d'Abraham et de son voyage. Car à partir d'Abraham, il y a un voyage. Va vers toi-même, dit Dieu, l'être. Abandonne ton milieu social, ta famille, ton pays, et va vers la terre que je te montre. Là, c'est vraiment le projet historien. Un projet dynamique. Va, terre, vers toi-même, l'être. Va vers toi-même. Tu vas trouver ta véritable liberté en relisant ton histoire. Tout ça pour nous dire que l'histoire d'Israël s'insère dans l'histoire des peuples, dans l'histoire de la civilisation, puisqu'il vient nous encadrer au moment où se découvre l'écriture encadrée dans la région du Golfe, et que cette écriture, cette histoire, on écrit, quand on commence à écrire, c'est pour raconter une histoire, raconter une mémoire, et qui s'en va, qui remonte le Euphrate et qui vient dans le territoire d'Israël. C'est un petit pays au milieu des autres. Un petit pays au milieu des autres qui nous dit comment nous sommes une petite unité, une petite personne au milieu des autres. Et comment, puisque nous sommes cette réalité-là, nous avons à partager la réalité dont nous vivons. Donc c'est tout un itinéraire spirituel qui se manifeste par là. Et alors nous avons vu, et je pourrais peut-être dire que depuis le début de la Genèse, nous avons vu que 1 à 11 disait le projet en quelque sorte, l'homme, homme-femme, fraternel, générationnel et national, et international, l'homme vit des réalités de dispute, de tension, de non-compréhension, etc., etc. Et donc, voilà ce que vit l'homme, comment Dieu traverse-t-il cette histoire. Et l'histoire légendaire, au sens que nous avons dit tout à l'heure, d'Israël, va le montrer dans un peuple. Ce peuple ayant comme vocation de le partager à tous. Donc nous avons, à partir de la Genèse 1 à 11, nous avons, comme je vous l'ai dit en vous lisant Ben Sirach 24, c'est Dieu qui cherche, Dieu, la sagesse de Dieu, qui cherche un repos, quelque part où s'installe. Et on pourrait dire que c'est l'esprit dans un corps. L'esprit, la présence de Dieu, qui trouve un corps pour vivre. Un corps, je parle ici du corps matériel, physique, bien entendu, et du corps social aussi. Ce thème du corps parcourt absolument toute la réalité de la Bible. Et donc c'est un corps, dans un corps, l'esprit qui cherche le corps. Il cherche depuis la Genèse, depuis le commencement, jusque au centre Ben, natuurlijk, c'est-à-dire l'éthique, le temps ici, et le chapitre 16 en particulier, jusqu'au Yom Kippour. C'est-à-dire le jour de l'expiation, c'est-à-dire la découverte de la miséricorde, du pardon du Seigneur. C'est la miséricorde qui se cherche un corps divisé, un corps disloqué, dans lequel il veut faire l'unité. Et nous avons vu que dans la Genèse, nous avons chaque fois les histoires de réconciliation. Avec Abraham qui doit se réconcilier bien sûr avec lui-même, avec Isaac qui reprend le projet d'Abraham mais à sa manière, et jusque Jacob, Jacob et Ésaü, réconciliation de l'un et de l'autre, Joseph et ses frères, réconciliation de la famille entière, de tous les frères avec lui. Donc il y a un processus de réconciliation qui se fait dès lors que Dieu est présent dans ce petit peuple au milieu de l'humanité. Dynamisme de liberté. Comment ce peuple va-t-il découvrir qu'il est libre? Être libre, c'est être en vérité face au réel. Le réel étant Dieu, étant soi-même et étant les autres, et le monde entier. Et ça, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, c'est une manière de présenter l'unité, l'unité qui est première et qui chemine à travers la division, à travers les oppositions, à travers les refus, à travers tous les obstacles que nous mettons à ce projet divin qui est en nous, qui est en nous comme le désir le plus profond de notre être, un désir de vie, un désir de recevoir et de donner la vie. Tolados, hein, et l'engendrement. Qu'est-ce que donner la vie et qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons une responsabilité par rapport à la vie que nous avons reçue. Que nous avons reçue. Donc c'est une école de réception. Qu'est-ce que nous faisons avec le désir qui est en nous? Désir de posséder en quelque sorte, je n'aime pas tellement le mot posséder, ce n'est pas mettre la main dessus, mais vivre cette vie qui nous est donnée, de vivre le don, le cadeau que nous sommes. Que nous sommes, nous, pour l'humanité entière. Car il s'agit bien de cela. Israël est là pour les nations. Nous sommes là pour toute l'humanité. C'est un rôle extraordinaire à cause de cette présence même de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Est-ce que nous en faisons un chemin de paix ou un chemin de discorde? C'est l'histoire du don de Dieu. Mais c'est tellement difficile de tout recevoir, y compris soi-même. C'est un chemin énorme, ce chemin de liberté que Dieu nous propose. Et la réalité de ce chemin, la vérité de ce chemin, c'est, comme je vous dis, c'est coïncider avec ce que nous sommes, comme cadeau, comme don de Dieu. Alors, il faut raconter la libération. Pour raconter la libération intérieure, on raconte une libération extérieure. Alors, libération extérieure, par rapport à quoi? Par rapport à celui qui est considéré toujours comme le celui qui impose la corvée, l'Égypte. L'Égypte a symboliquement cette valeur de celui qui impose l'esclavage, la servitude. Pourquoi nous avons traduit avec Georges Bozou le livre de l'Exode comme de la servitude au service. Quel est le sens du travail? D'abord, est-ce que notre vie est un travail? Et puis, est-ce que ce travail est pour les autres? De la servitude, c'est-à-dire le travail subi, au service, c'est-à-dire le travail libre. Nous avons vu qu'il s'agissait d'abord d'esclavage en Égypte, et nous avons vu là, hein, tout au début du livre de l'Exode, le rôle des femmes, et qui, malgré le génocide, donnent la vie et sont au service de la vie. Nous avons vu aussi que c'est quand Moïse s'est marié qu'il a découvert sa vocation, se trouvant au désert, la vocation devant le buisson ardent. Ce buisson ardent qui symbolisait évidemment la présence de Dieu au milieu de l'esclavage. Donc, bien compris, ce buisson d'épines, c'est la vie de tous les jours, mais considéré comme un esclavage. Comment passer de cette vie considérée comme un esclavage à une vie de liberté? Liberté extérieure d'abord, liberté intérieure ensuite. Liberté, oui, mais la liberté, c'est d'abord la discussion avec le parent. Il faut d'abord se réconcilier avec ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis seulement, à partir de là, mais pas d'initiative propre. Nous avons vu que Moïse, comme syndicaliste, n'a pas réussi. Il a fallu qu'il fasse tout un travail intérieur pour recevoir sa vocation de Dieu, sa vocation de libérateur, de sauveur. La recevoir de Dieu, c'est pas la même chose. La fabriquer soi-même, la recevoir de Dieu. Il a d'ailleurs eu les conseils de son beau-père, Jéthro, pour y arriver. Et alors nous avons vu qu'à travers les plaies d'Égypte, qui sont les réalités de nos vies, venant de l'extérieur, fallait passer aussi par la mer, mais que la mer ne s'ouvrait que quand on met le pied dedans, c'est-à-dire quand on s'engage. Tant qu'elle est là, rien ne se passe. Dès que on met le pied dedans, il y a une voie qui s'ouvre, un chemin qui s'ouvre. Ce chemin à travers l'eau, puis le chemin à travers le désert, c'est-à-dire à travers les réalités qui généralement sont menaçantes. L'eau de la mer et le désert est terrible. Mais en même temps, nous avons vu qu'il y avait tout un retournement pour ce petit peuple d'Israël. Puisque, au début, on reçoit tout du Nil, de l'eau et du soleil. Le soleil, hein, ça peut brûler très fort. On reçoit tout. Et dans le désert, il n'y a plus de terre, et le soleil y est toujours, mais là, le soleil brûle. Il n'y a plus d'eau pour irriguer le désert. Et donc il y a tout un renversement qui se fait. Je n'attends plus ma nourriture d'en bas, de moi-même, je l'attends de Dieu, du ciel. D'où la manne, d'où l'eau, alors qu'il n'y en a pas, il n'y a que du rocher. D'où les cailles qui viennent comme cela par le vent. Il y a tout un retournement que nous avons vu à travers les différentes épreuves. Mara, le rendir amer le nom de Dieu. Massa, la tentation. Méripa, la discussion, la provocation. Il faut tout cela pour arriver à Kadesh, c'est-à-dire à la sainteté. Découvrir Dieu comme sainteté. Et nous avons vu qu'il y avait le plan, car Dieu est aussi un bon architecte, le plan du sanctuaire. Il faut découvrir qu'au milieu de ce corps, qui se constitue et qui est déjà considéré comme le peuple d'Israël, il y a un esprit qui cherche, une présence qui se cherche. Le sanctuaire est au désert, au milieu du temple, avec le peuple. Il est présent comme une nuée de feu, comme une colonne de feu, comme une nuée. Une présence au milieu du peuple. Vous voyez, c'est cette découverte progressive de Dieu qui remplit toute la vie. Mais ça ne satisfait pas l'homme. Il y a besoin de réalités concrètes, et quand Moïse reste un peu trop longtemps sur le sommet du Sinaï, de l'esclavage au Sinaï, c'est ça le chemin de l'Exode, quand Moïse reste trop longtemps sur le Sinaï, eh bien on se fait un veau d'or. On a toujours tendance à ramener les choses à nous, à nos proportions humaines, au lieu de nous élever rayon de son. Et avant ce temple, il fallait susciter la liberté intérieure du peuple. Et c'est le travail de la Torah, de la loi, qui est un enseignement sur ce qu'est l'homme. C'est un enseignement de liberté, la loi, hein, et toujours la liberté. Nous engage à une liberté, c'est-à-dire une attention à nous-mêmes, aux autres, mais sous le regard de Dieu dans la Bible, évidemment. Don de la liberté. La liberté, c'est un don. Et donc ce don a une exigence, nous allons voir tout de suite hein, les conséquences que cela peut avoir. Dieu dit comment construire la tente sainte au milieu du peuple, et puis après le veau d'or, quand on a fait l'expérience de son idolâtrie, on peut alors construire la tente sainte, c'est-à-dire qu'on a pris distance. On sait que la tente, c'est le lieu où Dieu vient résider, mais ce n'est que le lieu. Le lieu qui signifie que le véritable lieu où il vient résider, c'est le corps du peuple, c'est la réalité du peuple elle-même. Et donc, on va ouvrir maintenant qu'on a construit un temple, c'est encore une tente au désert, eh bien il faut maintenant peupler cette tente, c'est-à-dire découvrir ce qu'est le service liturgique. Le service liturgique, pour nous, c'est une partie de notre existence. Ça se passe, bien sûr, à des moments privilégiés qui sont les moments de célébration. Mais ces moments de célébration sont toujours prophétiques et disent ce que doit être la vie qui continue. Et on voit bien que les prêtres sont au peuple d'Israël ce que le peuple d'Israël est aux nations. Donc, il y a là un schéma qui va s'imposer dès le début du Lévitique, un schéma de Dieu présent comme sainteté au milieu de son peuple, entouré des prêtres et des lévites, entouré des différentes tribus d'Israël. Donc Dieu est l'âme, Dieu est le cœur du peuple. Tout se rapporte à nous. Et donc nous avons édifice merveilleux du Lévitique qui va nous montrer que à partir du sacrifice, à partir des prêtres, des prêtres qui même dès le début ne sont pas tels qu'ils devraient être puisqu'ils font un mauvais feu, c'est-à-dire qu'ils ramènent toujours les choses à ce péché originel qui fonctionne à travers le peuple et que nous actualisons constamment. Nous avons une peine extraordinaire à recevoir la gratuité totale. Recevoir d'être pur, donc gratuit. Toujours accumuler des choses, toujours ramener à nous. C'est-à-dire rafraîchir tout. Alors que le mouvement qui est dans le Deutéronome, c'est exactement le contraire. C'est vraiment s'élever jusqu'à Dieu. Soyez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Une éducation à la liberté, c'est une éducation à la sainteté. Une éducation à la présence de Dieu qui commande toute notre existence. Alors, les sacrifices, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Ben, c'est soi-même, bien sûr. C'est-à-dire soi-même, qu'on laisse consacrer par la vie qui vient de Dieu. C'est ça le sens du sacrifice. Mais pour exprimer ça d'une manière tout à fait sensible, et on tue, on immole des animaux qu'on offre à Dieu. Manière d'exprimer concrètement que nous immolons, nous tuons l'animalité en nous. La quantité de choses qui restent encore animales en nous, toutes les pulsions égoïstes sont de l'ordre de l'animal. L'animal de prendre à lui. Et donc, il faut immoler tout cela, il faut le sacrifier, il faut des gens qui ne fassent que ça, en quelque sorte. découvre qu'ils sont faits pour la sainteté de Dieu. Et toute cette, donc tout ce qui est impur, tout ce qui est impropre à vivre cette sainteté doit être éliminé. D'où cette loi de sainteté que nous allons découvrir au milieu de, du Lévitique, hein, la loi de sainteté du chapitre 17 au chapitre 22, avec au centre le pardon au cœur du Lévitique. Pourquoi ce pardon est-il si important et pourquoi le Yom Kippour? Justement, pour découvrir que l'homme, nous avons vu que dès le départ, dans son humanité, en femme, fraternité, génération et peuple ensemble, nation ensemble, l'homme est tension, l'homme est conflit. Comment vivre ce conflit dans la paix, sinon en découvrant que Dieu nous en libère, que Dieu nous en libère. À charge de vivre cette libération qui n'est jamais terminée. Et nous arrivons ici à une compréhension. L'Esprit, l'Esprit de Dieu, est venu dans un corps qui est le peuple, un corps constitué qui a des exigences mêmes de l'amour. Alors, il y a ce petit schéma que vous trouvez dans le surtout dans le Lévitique. Vous connaissez bien ce petit schéma où la verticale de Dieu rencontre l'horizontale de l'humanité et où tout est. J'ai appris à découvrir que tout était don, que j'étais don, que nous étions des dons, mais des dons de qui? La science parle de donner. Mais s'il y a donné, il y a donateur. Alors, don de Dieu. Donc, don personnel. Don personnel et don collectif par le fait même aussi. Ce don de Dieu, il vient à nous. Et ça, ceci signifie, au fond, l'itinéraire en question que vous trouvez dans tout le Pentateuque. Il y a l'itinéraire. Le don nous apparaît toujours, d'abord, comme une loi. Une loi, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à nous et qu'on ne peut pas changer parce que ça vient du dehors, mais qui en même temps nous constitue et donc qui nous libère. Le don de Dieu apparaît comme une loi. Tout ce qui nous arrive dans la vie nous apparaît comme une loi, c'est-à-dire quelque chose que on ne peut pas changer. Il y a les lois de la vie, il y a les lois du monde, hein. Ces choses qui existent telles quelles, mais il faut agir avec, et donc il faut se la concilier, c'est-à-dire il faut l'intérioriser pour qu'elle puisse vivre. Et cette loi nous apparaît toujours à nous, comme dans la Bible en tout cas, comme une tentation. Une tentation, qu'est-ce que c'est? Une tentation, c'est une invitation à être libre, à trouver notre chemin de paix et de vérité, hein, à travers des tendances diverses. Il y a des choix à faire. Et ce don de Dieu devient tentation, mais à travers la loi. Parce qu'elle s'est imposée à moi comme quelque chose que je n'ai pas fait de moi-même. Heureusement d'ailleurs, sinon je ne serais pas vrai. Je serais peut-être authentique, mais pas vrai. Et donc le don va se manifester, Dieu va se manifester dans ma vie comme une tentation. C'est comme ça qu'on dit que la tentation vient à la fois de Dieu et elle vient de nous. Elle vient de Dieu parce que c'est Dieu qui donne. Nous sommes une tentation pour nous-mêmes, c'est-à-dire un test qui va permettre que nous devenions véritablement nous-mêmes. Il y a en quelque sorte dans le don une prédestination à la liberté. Mais encore faut-il y répondre. Si nous agissons bien,
si nous ne nous laissons pas tenter, comme nous disons, parce que nous voyons la tentation comme un mal, alors que c'est un bien, une invitation. Si nous la voyons comme un mal, c'est parce que nous refermons sur elle. Mais sinon, eh bien, la tentation va être la reconnaissance du don. C'est ce que normalement il devrait être. Mais il se fait que ce n'est pas le cas habituellement. Habituellement, nous tombons. Il y a la chute de nos premiers parents, et puis toutes les chutes du peuple d'Israël que vous voyez, mais de personnes et du peuple. Par exemple, Abraham est celui qui va remercier Dieu à travers la victoire sur lui-même. Il va découvrir que sa paternité n'est pas une possession, que sa paternité est une promesse. Et donc il est au service de cette promesse, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Vous voyez que chez Abraham, on remonte vers le don. Tandis que, la plupart du temps, il y a ce que nous appelons, ce que la loi appelle elle-même, la transgression. Et c'est généralement ce qui se passe, que nous transgressons ce qui nous apparaît comme une loi parce que ça nous semble extérieur, alors que la loi est faite pour nous rendre libres, nous la prenons comme une chose au contraire qui va nous priver. Et donc il y a là, on passe de la loi à la transgression de la loi. Et on n'a pas toujours le sens que l'on a transgressé. Oui, on a une certaine culpabilité, on découvre qu'on a transgressé une loi qui était donnée comme une exigence. Et il faut chaque fois, c'est ce qui se passe dans la Bible, il faut une révélation. Une révélation du péché. La transgression reste encore extérieure. Le péché, c'est le sens d'avoir blessé celui qui nous a donné. Il nous a donné à nous-mêmes, il nous a donné le monde, nos frères, etc., nos soeurs, etc. Donc, il faut une révélation. Vous voyez que c'est Dieu qui plonge jusqu'à l'intérieur de notre péché. Ça, c'est le Yom Kippour. C'est la révélation du péché de l'homme. Et c'est plutôt au service de la liberté, la révélation du péché. La culpabilité, ça nous referme sur nous-mêmes. La découverte du péché, c'est une grâce qui nous rapproche de Dieu au cœur même de notre liberté qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut en prendre conscience. Et prendre conscience de ce que Dieu nous révèle, eh bien, c'est faire pénitence. C'est-à-dire recevoir comme une grâce ce que nous appelons généralement le châtiment. Qu'est-ce que c'est qu'un châtiment? Un châtiment, c'est la perception de nos limites quand nous ne voyons que nous-mêmes. Découvrons ça comme une punition. Punition, pénitence, comme châtiment, comme quelque chose de nouveau qui vient de l'extérieur. Mais c'est une extériorité qui nous dit que nous avons transgressé une loi d'amour qui est un don. Et donc, le châtiment ou la pénitence correspond à la transgression et est souvent manifestée dans la loi. La loi nous dit, si vous n'obéissez pas, voilà la conséquence. Mais cette conséquence, c'est une manifestation extérieure d'une insuffisance, d'une incompréhension dans le don qui nous est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Il se passe qu'à ce moment-là, vous avez une confession, c'est-à-dire un aveu. J'ai péché. J'ai péché, c'est-à-dire je t'ai fait mal. J'ai fait mal au donateur. La confession, c'est vraiment une manifestation de la miséricorde de Dieu, une adhésion à la révélation du péché par Dieu, une adhésion à cette présence de Dieu en moi, bien que j'aie transgressé. Donc la confession, c'est un chemin de retour qui est exactement opposé à la tentation. La tentation prise dans le sens négatif, bien entendu. La confession, je confesse toujours la miséricorde de Dieu. On dit je me confesse, non. Je confesse, saint Augustin le marque de façon très nette, je confesse la miséricorde de Dieu jusque dans mes écarts. Cette confession me fait découvrir que Dieu est pardon.